quand je crée Mocha avec Guillaume, la santé mentale, on pensait que ça concernait 1% ou 2% des gens qui ont une maladie mentale. Aujourd'hui, la conviction que tout le monde a, c'est que ça concerne 100% des gens. C'est un truc qui est tout à fait normal dans nos vies. Et oui, on a des difficultés, mais on les aborde et on y va et on avance.
Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castalie, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, au micro de La Relève, je reçois Pierre-Étienne Bidon, 30 ans. C'est en 2020 qu'il fonde MocaCare avec son associé Guillaume Degvive. La mission de cette start-up est d'accompagner les entreprises à prendre soin de la santé mentale de leurs collaborateurs. Comment démocratiser la santé mentale dans le milieu professionnel et faire en sorte que celle-ci ne soit plus un sujet tabou? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut Pierre-Étienne, bienvenue.
Salut Thibault, merci de m'accueillir.
Est-ce que tu peux nous parler de toi plus jeune? 30 ans c'est jeune, mais ton enfance?
Écoute, ouais, avec plaisir. J'ai grandi en région parisienne. J'ai eu une enfance super épanouie. Je me suis éclaté dans plein de sujets. Je faisais beaucoup de sport.
T'as grandi dans quel
sport différent? J'ai grandi dans le 92, ouais. À Rueil-Malmaison.
Okay.
J'ai fait effectivement plein de sports différents, beaucoup de sports d'endurance, de la course à pied, du vélo. On le faisait pas mal en famille, c'était top. Et sinon, j'étais très jeune, passionné de tout ce qui concernait aussi la vente. J'ai créé des petites boutiques sur eBay quand j'avais 9-10 ans et ça m'éclatait.
T'as vendu des choses sur eBay à 9-10 ans?
Ouais.
Qu'est-ce que tu vendais à 9 ans?
Écoute, ça ferait pas très plaisir à mes parents d'entendre ça, mais j'aimais bien parfois aller dans la cave et dire bon bah ça on l'utilise pas et donc est-ce qu'on le revendrait pas?
Et ils étaient au courant tes parents?
Ils étaient au courant et à l'époque je crois qu'on n'avait pas de compte bancaire ou quoi. Enfin moi personnellement c'était certain et donc l'argent tombait sur le compte eBay commun et j'étais très fier dès que ça rapportait 10, 20, 30, 40 euros. Donc.
Et t'as des frères et sœurs?
Ouais, j'ai un grand frère et une grande sœur. Je suis le petit dernier, j'ai une petite fille, j'attends un deuxième enfant en ce moment même.
Elle a quel âge ta petite fille?
1 an.
Et le deuxième, il est pour quand?
Il est pour le 6 décembre, donc dans 3 mois à l'heure où on parle.
Qu'est-ce que t'as été comme genre d'élève?
C'est une bonne question. Je pense que ça a beaucoup évolué. Quand j'étais en primaire, je me souviens encore d'avoir pas mal de mots dans les carnets qui faisaient pas tellement plaisir aux parents. Je me souviens notamment des mots turbulence qui revenaient assez souvent. Et en fait, je me suis pas mal calmé au fur et à mesure des années, assagi, et j'ai fini par être bon élève, voire très bon élève, à partir du lycée en fait. Au moment où il y avait une échéance un peu importante, je pense que j'ai trouvé à peu près ce que je voulais faire. Donc là, je me suis dit, tu vas commencer à bosser, à charbonner, et c'est plutôt bien passé.
Et donc, tu souhaitais faire quoi enfant? Enfin, quel métier?
Le métier que j'avais énormément dessiné sur le papier, c'était explorateur. En fait, quand j'étais enfant, j'avais un petit carnet où je voulais aller voyager en Amazonie et j'avais construit toute une cabane avec les armes dont j'avais besoin, les taux de nourriture qu'il me fallait, l'eau, etc. Et c'est un truc, là on fait un peu d'introspective, mais qui m'a vachement resté par la suite.
Alors, donc tu dis que tu veux faire explorateur, donc qu'est-ce que tu fais comme étude?
Alors ça, très bonne question. J'ai fait des écoles de commerce, donc aucun rapport. Mais c'est un truc qui m'a toujours resté, par exemple, dans le sport. Le truc qui me drive, c'est pas tellement d'atteindre les plus hauts résultats tout de suite ou nécessairement la performance. C'est beaucoup plus de voir jusqu'où ton corps est capable d'aller ou qu'est-ce que tu peux aller chercher dans que ce soit un sport d'endurance très long où tu vas courir toute une nuit ou que ce soit par exemple s'essayer à l'apnée, descendre à 25 mètres et te dire en fait c'est pas si compliqué que ça et le corps fonctionne très bien pendant 4 minutes sans oxygène ou des choses comme ça.
Tu fais quoi en apnée? Tu fais combien?
Justement, on est descendu autour de 25 mètres.
Donc tu fais une école de commerce, loin de l'exploration, et donc qu'est-ce que tu sais de ton premier taf, c'est quoi?
Écoute, mon premier taf, en fait, il est à la fin de mes études. J'ai fait le choix d'être alternant ou apprenti en fonction des noms qu'on utilise. Et j'ai commencé à travailler dans une grosse entreprise de cosmétiques, pendant mes dernières années d'études. Ouais. J'étais vendeur sur le terrain.
Je vendais des crèmes, peux la citer?
Oui, bien sûr, qui s'appelle L'Oréal. Je travaillais pour des marques qui s'appellent Vichy et La Roche-Posay. Et en fait, j'étais assez fan de ça. C'est là où j'ai retrouvé aussi mes amours pour toute la relation commerciale. Et te dire, comment j'accompagne un client le mieux possible avec le produit que j'ai. Ouais, je me suis vraiment éclaté et c'était top parce que t'as 22 ans et t'es confronté à des grossistes pharmaceutiques qui en ont 50 voire plus, et au début tu te dis bon, ok, gros syndrome de l'imposteur, est-ce que j'ai le droit en fait d'être devant eux et de négocier solo face à eux. Puis en fait tu te rends compte qu'ils sont ultra bienveillants et que les négos se passent bien, donc tu commences à prendre confiance en toi et bien sûr tu te prends quelques tartes, mais c'était une période ultra excitante.
La santé mentale, c'est un sujet dont on va parler. Est-ce que finalement, avant d'entreprendre, c'est quoi le lien entre ton parcours et ta personnalité et la santé mentale ?
Le lien, il est double, je pense. Le premier, c'est dans ma pratique du sport, j'ai toujours eu une importance extrême pour tout ce qui était entraînement mental, visualisation, le fait de prendre du temps pour respirer, en fait, considérer le mental dans la performance sportive. Et le deuxième, c'était en fait, j'ai eu un père qui était atteint d'une maladie mentale très grave pendant un peu plus de 12 ans. Et donc quand on était enfant, c'était quelque chose dont avec lequel on vivait en fait, c'était quelque chose de normal. On n'en parlait pas des masses, enfin ça dépendait des moments, mais c'est difficile quand t'es enfant de comprendre ce que c'est. Par contre, tu le ressens énormément et je pense que je suis passé par plusieurs phases. Des phases au départ presque de haine ou de violence où en fait, je comprenais pas pourquoi cette maladie existait, et c'est ce pourquoi je me bats aussi aujourd'hui, c'est de dire la santé mentale, contrairement à la santé physique, c'est quelque chose qui est assez invisible. Tu vois, tu te pètes la jambe, tu tombes dans l'escalier, t'as un plâtre, on le voit, t'as des gens qui viennent te voir, ça va, qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. La santé mentale, c'est quelque chose qui se voit pas. Donc au début, je suis passé vraiment par une phase de haine, où presque, je dirais pas que je détestais mon père, mais je me disais, en fait, je comprenais pas.
T'acceptais pas la maladie ?
Ouais, exactement. J'acceptais pas du tout la maladie. Je suis quelqu'un qui considère que avec de la volonté, on peut tout faire. Et je suis profondément convaincu de ça. Et du coup, c'était quelque chose qui était très contradictoire avec la notion même de maladie mentale. Parce que, en gros, moi, ce qui se passait dans ma tête, c'était si jamais ton père a ça, bah, en fait, en voulant changer, il aurait pu changer. Ou il pourrait changer. Et le fait d'avoir été confronté à ça, justement, m'a énormément fait grandir sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, non, c'est pas vrai. C'est même comme ça que le sujet de la santé mentale a été arrivé, entre guillemets, chez moi. Et ensuite, j'ai travaillé dans un gros cabinet de conseil en stratégie pendant un peu plus de 4 ans, où je me suis éclaté, j'ai fait plein de trucs en France et à l'étranger. J'ai trouvé ça top, une super expérience. Et un des trucs qui m'a quand même marqué, c'est pas du tout ce dont on peut parler en extérieur, typiquement un nombre de burn-out important, etc. C'est vrai que ça arrivait. Par contre, c'est beaucoup plus un rapport à la vulnérabilité. En fait, les gens avaient peur de dire bah non, ça je suis pas confiant, j'y arrive pas, etc. Et c'était super contradictoire avec la notion de performance, et moi c'est ça que je voulais réunir en fait.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. Finalement c'est quelque chose qui t'a accompagné quand même sur le long cours pendant ton enfance. Quand tu sors de tes 4 ans de conseil, comment est-ce que tu rencontres Guillaume, ton associé, et à quel moment vous décidez de créer l'entreprise?
Guillaume, on se connaît depuis très longtemps. En fait, on était en école ensemble, bossé dans le même cabinet de conseil, justement. Donc, on avait eu l'occasion de devenir potes dans le milieu perso, mais aussi collègues dans le milieu pro. Et les deux se liaient beaucoup. Et on avait déjà juste l'envie d'entreprendre à deux. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que quand on regarde les échecs de la majorité des boîtes, en fait, je pense que c'est essentiellement lié à des conditions d'association. Alors que le binôme qu'on forme avec Guillaume, et pour moi extrêmement solide, source de plein d'épanouissement, et je pense qu'il apporte une valeur économique à Mocha qui est énorme parce qu'on est très complémentaires.
Comment est-ce que vous réglez les conflits ?
Au tout début de Mocha, ça a été assez compliqué parce que on lance Mocha en janvier 2020, 3 mois après confinement, on est séparés. Donc t'imagines créer une boîte à distance, c'est extrêmement compliqué. On avait au tout début beaucoup de différends parce que au final, on avait travaillé ensemble quand on était en cabinet de conseil, mais on n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. Et donc, on a pris le temps de se découvrir l'un et l'autre et de passer d'un mode où moi, en tout cas, et je parlerai pas pour Guillaume, mais moi, je voyais les différences de Guillaume au tout départ comme quelque chose qui était une faiblesse ou qui était pas bon. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était une force qui était énorme. Et donc, la façon dont on règle les différends aujourd'hui, après être passé par ces phases, on a créé, par exemple, un rituel qu'on appelle une purge. Donc, on se voit une fois par mois, on prend un petit déj. Et en fait, on prend le temps de se dire, c'est pas du tout business, mais on prend le temps de se dire, écoute, là, mois dernier, dans ce que t'as fait qui m'a donné de l'énergie, bah, c'était ça, ça et ça, et merci pour ça. Et à l'inverse, Tu vois, là, par exemple, quand t'as fait ça, moi, je l'ai interprété comme ça. Et franchement, ça m'a miné ou je trouve que ça a eu un impact négatif sur la boîte. Qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, le fait d'avoir un moment dédié, c'est presque comme dans un couple, en fait. Ça te permet de pas avoir de tension qui monte sans raison et de péter un câble, mais parce que tu sais que t'as un organe qui est dédié pour ça, quoi.
Mais tu pourrais le faire aussi en live.
On le fait bien sûr en live, hein, on n'attend pas, je prends pas mon petit carnet en notant le truc pour dire à Guillaume dans un mois, etc. C'est pas du tout le but. Et là, ce qui est aussi top, c'est qu'on arrive dans un niveau de connaissance de l'un et l'autre où on a de moins en moins, là tu vois, ça fait 2-3 purges où en fait on a assez peu de sujets négatifs parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, tu vois, déjà, et on sait exactement comment on fonctionne et maintenant ça roule. Effectivement, moi, pour moi, faire des trucs sur le spot, c'est ultra important. Par contre, parfois, il y a des moments où, pour quelque raison que ce soit, t'es tendu et t'as pas l'écoute de te dire « Ah ouais, mais en fait, il a raison. »
Vous avez un coach tous les deux ?
Ouais, on a un coach, on se fait accompagner par quelqu'un. Pareil, je trouve ça ultra bien parce que c'est un moment... Pour le coup, on aborde à la fois des sujets d'association, mais aussi des sujets business. Et je trouve que c'est un moment pour prendre du recul. C'est assez compliqué, mine de rien, dans une vie d'entrepreneur que tu connais très bien, de se dire « Ok, prenons un peu de recul. » Comment ça se passe? Où est-ce qu'on veut être dans X? Tiens, on a tel sujet, comment on l'adresse?
À quel moment tu décides de créer Mocha Care? Et qu'est-ce que c'est? Comment ça marche?
On décide de créer Mocha.care en juin 2019. Et en fait, à ce moment-là, la première chose qu'on fait avec Guillaume, c'est qu'on se pose sur, tout d'abord, pourquoi on crée cette boîte? Et vraiment, quel que soit le sujet qu'on aurait pu aborder, on a abordé cette question juste parce que, tu vois, t'as des gens qui créent une boîte, je sais pas, pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir un impact sur la société, pour être perçu par ses pairs comme étant une rockstar, pour avoir du pouvoir, pour je ne sais quoi. Et le fait de se dire, ok, toi, pourquoi tu crées cette boîte? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ça permet de savoir si derrière tu vas être aligné sur les mêmes choses, notamment quand t'as une grande décision stratégique à prendre. Et donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été justement de... À l'époque, la grosse question qui se posait, c'était la santé mentale. Tout le monde nous prenait pour des fous.
Alors moi, j'ai travaillé à l'étranger. Alors j'ai passé 2 ans en Australie et en tout dans les années 2000, c'est 2006-2007. La santé mentale, c'était déjà un sujet de société dans les entreprises. Je veux dire, dans le monde anglo-saxon, la santé mentale, enfin c'est un sujet. En France, c'est ce que tu dis,
c'est
hyper
tabou. Non-sujet.
C'est un non-sujet. Mmh. D'ailleurs, sans doute pour les raisons que tu donnais tout à l'heure, où finalement, avec de la bonne volonté ou avec la volonté, on peut canaliser son mental.
Puis après, t'as plein de trucs qui expliquent ça. Hein, tu vois, c'est une culture très cartésienne qui naît dès l'éducation, où en fait, tu laisses très peu de place à l'émotionnel par rapport au rationnel. Même quand tu regardes les programmes scolaires, quand tu les compares entre les pays, il y a très peu en France d'acceptation de l'échec, tu vois, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est mal, en fait, de se mettre à nu et de se planter, quoi. Mais bon, la grosse question qu'on se pose à l'époque, c'est, ok, on a un énorme intérêt pour ce sujet. On voit que dans notre pays, effectivement, le sujet est abordé avec énormément d'impact business dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est prouvé partout que ça réduit l'absentéisme, que ça augmente le niveau d'engagement, que ça augmente ton niveau de rétention, etc. Et donc, in fine, 1 euro investi dans la santé mentale, par exemple aux US, génère entre 4 et 5 euros de retour. Donc le retour du surinvestissement est démentiel. Et la question qui se pose en France à l'époque, c'est est-ce qu'il y a un marché pour ça? Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on crée un premier produit qu'avec des outils no-code en 3 semaines. Qui permet un truc très simple, il y a 4-5 contenus qui permet de réserver une session avec une communauté de praticiens. Quand je dis communauté, à l'époque, on était allé voir une petite centaine de praticiens avec Guillaume et on avait réussi à en convaincre 5 seulement, je crois, de nous rejoindre parce que personne ne croyait au truc au départ. Et donc, on avait 5 praticiens sur la plateforme. Et là, moi, je prends mon bâton de pèlerin et je commence à aller voir plusieurs entreprises, dont une que tu connais très bien, qui était peut-être... notre premier ou deuxième client, donc à savoir Castalie.
On est très fiers d'avoir dès le début travaillé avec toi.
Du coup, justement, il y a des premières entreprises qui commencent à nous faire confiance. Et grâce à ces premières marques de confiance, aujourd'hui, on s'est beaucoup déployé. On accompagne un peu plus de, enfin, presque 150 entreprises en France, en Europe et dans 12 pays au total. Mocha, si tu me demandes maintenant concrètement ce que c'est, déjà, ça part d'une raison d'être qui est, on pense que les plus belles réussites naissent dans des esprits sereins. Et ça, c'est pour moi vachement important de le rappeler parce que si je devais dire qu'on a qu'une mission, c'est d'éradiquer le stress, en fait, dans les entreprises et chez les individus. Et la façon dont on le fait, c'est que on permet à la fois d'avoir un accompagnement côté collaborateur et côté entreprise. Donc, je vais pas faire de la pub pendant 2 heures pour Mocha, mais si j'explique très rapidement, c'est Côté collaborateur, on permet à chacun de consulter en toute confidentialité un psychologue qui travaille exclusivement avec nous et qu'on a sélectionné avec beaucoup d'attention, mais aussi de consulter des contenus pour se sensibiliser et faire le premier pas sur des sujets de santé mentale. Et côté entreprise, on permet de façon tout à fait confidentielle de comprendre quelles sont les thématiques qui posent question aux équipes pour pouvoir agir dessus, que ce soit en réaction via des situations de gestion de crise quand il y a un problème qui s'est passé, ou en anticipation et en prévention avec tout un tas d'ateliers de groupe sur des thématiques parfois très business, comme là par exemple on vient de lancer un nouveau sujet, comment améliorer la performance des équipes commerciales grâce au mental et aux émotions.
Tu nous as parlé deux fois de confidentialité. Ça a été un sujet au début de l'intégration de Mocacare chez Castalli. Comment est-ce que tu t'assures de la confidentialité des échanges ?
Déjà, la confidentialité, en fait, elle a lieu à deux principaux niveaux. Le premier, c'est entre le collaborateur et son entreprise. Il n'y a aucune information personnelle qui est transmise. Tu ne sauras jamais, Pierre-Étienne Bidon est venu voir un psy tel jour à telle heure, bien sûr, et encore moins le sujet dont il a parlé. Bien sûr, c'est une obligation pour nous. Donc ça, c'est le premier niveau de confidentialité. Dans ce niveau-là, en fait, on partage à l'entreprise que des données agrégées. C'est-à-dire, on pourrait dire, par exemple, chez Castalli, vous avez 130 collaborateurs. Sur ces 130 collaborateurs, il y en a 50 qui ont un compte Moca, qu'ils utilisent de façon régulière, c'est-à-dire au moins une fois par mois, et il y a X sessions qui ont été réalisées. Et parmi les contenus qui sont consultés, c'est à X%, je dis complètement au hasard, la parentalité, la gestion du stress et le syndrome de l'imposteur. Et là où on va encore plus loin, c'est que on vient de développer quelque chose où maintenant on est capable de dire, et d'ailleurs c'est marrant parce que sur notre segment Startup Scale-Up, on accompagne presque plus de 50 entreprises maintenant, on est capable de dire, ah mais la parentalité ça arrive en numéro 2 chez vous. C'est marrant parce que dans notre segment, de façon globale, ça arrive en numéro 7. Donc qu'est-ce que vous faites sur la parentalité? Voilà ce qu'on observe chez nos clients. Est-ce que vous avez fait ça, ça et ça? Ça vous permettra d'améliorer ce score sur le long terme. Ça c'est le premier niveau de confidentialité.
Ouais.
Et le deuxième niveau, c'est nous en interne chez Moca. Bien sûr, on n'a aucun accès à des données individuelles de collaborateurs, à part les praticiens que vont rencontrer les équipes des entreprises qu'on accompagne. Mais moi, par exemple, je ne sais pas qui utilise Moca chez Castalli.
Bon, donc il n'y a pas de problème de confidentialité avec Mocacare. En tout cas, c'est pour ça que nous, on est ravis de travailler avec vous. C'est quoi les idées reçues auxquelles t'es confronté ?
Côté entreprise, ça a beaucoup évolué dans le temps. Au tout début, donc il y a presque 3 ans, quand on lance Moca, la première question qui se posait, c'est « Ok, mais c'est quoi le ROI ? En fait, quel est le retour sur investissement que je vais générer ? Est-ce que ça va avoir un impact sur mes équipes ?» La deuxième question qu'on nous posait à l'époque, c'est mais est-ce que c'est le rôle de l'entreprise, en fait, de prendre la parole sur la santé mentale ? Est-ce que, en fait, c'est pas une ingérence dans la vie privée des collaborateurs ? Les autres questions qu'on nous pose aussi, c'est est-ce que, en fait, je dois à la fois traiter de thématiques personnelles et professionnelles ? Voilà, c'est ça un peu les grandes questions qui reviennent. Et derrière, c'est pas tellement des questions ou des doutes, mais c'est plus, ok, comment je dois le communiquer à mes équipes ? Et donc ça, on accompagne énormément aussi les entreprises là-dessus sur comment faire passer le message. Et chez Moca, on a une approche qui repose sur 3 termes. C'est experte, positive et accessible. Le but, c'est pas d'avoir une approche qui est légère. Il y a 10 000 applications de santé mentale aujourd'hui en Europe. 99% d'entre elles qui sont gratuites. Il y a énormément de choses qui abordent le sujet avec beaucoup de légèreté, pour pas dire autre chose. Et nous, on veut justement avoir une approche qui a un vrai impact et qui est experte. C'est pour ça qu'on a un comité scientifique, etc. Le deuxième, c'est accessible. C'est-à-dire, on veut toucher tout le monde. Quand je crée Moca avec Guillaume, la santé mentale, on pensait que ça concernait 1% ou 2% des gens qui ont une maladie mentale. Aujourd'hui, la conviction que tout le monde a, c'est que ça concerne 100% des gens à un moment donné de leur vie. Et la troisième, c'est positive. Et ça, c'est ultra important pour moi. C'est de dire, ayons une vision. C'est pas je vais mal, je prends soin de moi, mais c'est en fait c'est un truc qui est tout à fait normal dans nos vies et on va pas entre guillemets aborder le truc de façon très négative. C'est pas le bureau des plaintes, le bureau des pleurs. C'est beaucoup plus se dire c'est quelque chose qui fait part intégrante de notre vie et oui on a des difficultés mais on les aborde et on y va et on avance.
C'est l'ostéopathe de 2023.
C'est l'ostéopathe de 2023.
J'ai l'impression quand même que la crise sanitaire, on sort là de 2 ans de tempête, de confinement, reconfinement, de télétravail, de période finalement assez folle où on avait oublié ce que c'était que l'entreprise, le temps, avec des gros doutes, enfin tous les doutes qu'on a connus sur la vaccination, la peur de la maladie, etc. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé ?
Je ne sais pas si ça nous a aidé. Ce qui est clair, c'est que sur certains aspects, ça nous a aidé. Le premier aspect sur lequel ça nous a aidé, c'est du jour au lendemain, le mot santé mentale fait la une du monde. et donc ça devient un sujet de société, alors qu'avant c'était pas du tout un sujet. En fait, on a gagné entre guillemets grâce à cette crise, on a gagné peut-être 5 ans dans le niveau d'éducation des Français, des entreprises, de tout le monde en fait sur le sujet de la santé mentale. Donc ça, effectivement, ça nous a fait gagner du temps entre guillemets. Après, il y a eu pas mal de sujets honnêtement sur est-ce que ça nous a fait grandir plus vite, est-ce qu'on a profité entre guillemets de la crise sanitaire. Oui, je pense qu'on a eu des choses qui nous ont aidés. Par contre, effectivement, il y avait beaucoup d'entreprises qui gelaient les budgets, et donc si la question c'était ça derrière, je pense que ça c'était assez neutre. Je pense que ça a mis le doigt sur des problématiques, ou en tout cas des thématiques de santé mentale qui étaient très profondes et qui ont été révélées par le Covid et les confinements successifs qu'on a connus. Je peux en parler d'un par exemple, le travail hybride. C'est un sujet dont on parlait très très peu avant le confinement parce qu'il y en avait quasi pas. Or aujourd'hui, en fait, ça a transformé énormément de choses. Ça a transformé ton rapport à l'espace. En fait, entre ton cercle privé et ton cercle pro, bah, il y a moins de frontières parce que souvent tu fais du télétravail et donc ta frontière physique que tu avais avant entre le bureau et ton espace perso n'est plus là, donc mentalement elle n'est plus là non plus. Les relations managériales qui étaient essentiellement à l'oral avant, bah là se font beaucoup plus soit à l'écrit soit par écran interposé, donc il y a énormément d'interprétations du mot qui génèrent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Il y a un phénomène qu'on a vu apparaître aussi qui est peut-être une troisième tendance qu'on a vu avec le Covid et avec la crise qu'on a traversée, qui est tout le phénomène de d'éco-anxiété de façon globale. Tu le connais avec la mission que vous portez avec Castalie, mais on a de plus en plus de gens qui sont extrêmement peu confiants sur l'avenir et pour qui ça génère une réelle anxiété. Alors qu'il y a 3 ans, on aurait dit bon, ok, t'es bien mignon, t'es sympa, mais arrête avec tes trucs et continue de marcher. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est vraiment reconnu.
Comment est-ce que tu t'assures du professionnalisme de tes coachs, de tes psys? T'as les deux populations, des coachs et des psys?
On a les deux populations et on a même ouvert à des thérapeutes d'un certain type, donc notamment des conseillères conjugales et familiales. Je dis conseillères parce qu'on a que des femmes aujourd'hui. On recherche des hommes sur ce sujet, mais c'est extrêmement rare. Et des sophrologues. La façon dont on les sélectionne, elle se fait en plusieurs étapes. La première, c'est nous de définir en avance un cahier des charges, que ce soit de diplôme, de type, de certification, qu'on va aller sélectionner en fonction des pays. Donc on a une équipe qui est dédiée là-dessus et un comité scientifique qui est composé de psychologues, de psychiatres et aussi de RH qui nous aident à définir ça. La deuxième étape, c'est on a un processus de sélection qui est comme un processus de recrutement classique quand tu rejoins n'importe quelle entreprise, qui est en 4 entretiens. L'ensemble des praticiens rencontrent encore Guillaume, mon cofondateur. Le but étant, à chacune des étapes, comme un entretien classique, de valider à la fois les compétences de la personne dans son métier, mais aussi, et ça c'est extrêmement important pour nous, l'adhérence avec les valeurs de Moka et notre manière d'aborder la santé mentale, comme je disais tout à l'heure, de façon experte, positive et accessible. C'est comme ça qu'on le fait. Et maintenant, on est capable effectivement de recruter en moins d'un mois dans quelques pays que ce soit dans le monde grâce aux contacts qu'on a générés un peu partout.
Les collaborateurs vont évaluer leurs entretiens ou leurs échanges avec leurs interlocuteurs?
Alors, je pense qu'il y a 2 questions là-dessus. On a toujours été contre les notes en tant que telles, c'est-à-dire que je suis pas du tout partisan de mettre des notes à l'humain, et surtout pas en psychologie, pour une raison très simple, et c'est pour ça qu'on pourra y revenir, mais Moka, on travaille sur une notion en psychologie qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est dans quelle mesure je rencontre le bon praticien pour moi, et on veut pas mettre de notes parce que un praticien donné, même s'il est extrêmement qualifié, si ça se trouve, sera bien pour toi et pas du tout pour moi. Parce que on n'aborde pas la même thématique, parce qu'on n'a pas le même besoin. En fait, c'est comme si, t'avais mal au genou et t'allais voir un ORL, bah nécessairement, ça va pas fonctionner. Donc non, on met pas de notes. Par contre, effectivement, il y a une possibilité dans Moka de faire remonter des feedbacks à Moka en disant, écoutez, là, j'ai eu soit quelque chose qui s'est mal passé, pour quelque raison que ce soit, et bien sûr, on accueille ces feedbacks-là et on a une personne qui est dédiée pour trouver une solution extrêmement vite. Mais aujourd'hui, ça nous arrive très peu, en fait, parce qu'on a un processus d'appel d'orientation où la première session que fait chaque utilisateur de Moka, c'est une session avec une personne qui est psychologue et qui est salariée chez Moka pour l'aider à trouver le bon praticien. Et donc aujourd'hui, on a un NPS utilisateur qui est à 76 et un taux de satisfaction du praticien qui est à 98%.
Donc la première session, elle est réalisée par un praticien qui est en CDI chez vous.
Exactement. On a plein de questions en fait dans ces sessions-là. On a des gens qui nous disent « Ok, mais je sais pas en fait si c'est fait pour moi d'aller voir un psy. Voilà ce qui se passe aujourd'hui chez moi. Est-ce que j'ai besoin de consulter ? J'arrive plus à dormir la nuit. Voilà ce que je ressens. Quel type de praticien je vais aller voir ?» On a même parfois des gens qui connaissent beaucoup plus les différentes approches de psychologie et qui nous disent ok, c'est quoi la différence entre la TCC, le MDR et la psychanalyse, qui sont différents outils qu'on utilise. Parce que pareil, ça c'est une autre grosse conviction qu'on a. aujourd'hui, dans un monde où on valorise énormément l'immédiateté, il y a une des pratiques qui se développe beaucoup dans le milieu de la psychologie, qui est ce qu'on appelle la TCC, donc ça veut dire thérapie cognitivo-comportementale, qui sont des thérapies brèves, qui sont extrêmement pertinentes pour certains sujets, mais qui ne sont pas du tout pour d'autres. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix chez Moka d'avoir une approche qu'on appelle intégrative. On travaille avec 9 approches de psychologie qui sont reconnues par l'OMS pour pouvoir guider chaque personne vers le bon praticien et vers la bonne approche.
Vous avez levé de l'argent à plusieurs reprises, la dernière fois et avec quelques sportifs. Pourquoi ?
En fait, on a fait le choix de faire rentrer des sportifs qui nous ont toujours impressionnés au capital de Moka, parce que pour moi, en fait, la santé mentale et le milieu du sport, comme je le racontais au début de l'épisode, sont extrêmement liés. Et en plus, parce que ça véhicule la vision positive du sujet que j'ai envie de véhiculer.
On peut les citer, alors qu'est-ce qui est rentré au capital ?
Antoine Griezmann et le fonds de Blaise Matuidi Origins. Mais en fait, c'est pour moi des sportifs qui sont extrêmement impressionnants dans le niveau de succès et de réussite qu'ils ont atteint. Et on pense que ce succès a été linéaire et uniquement lié à de l'entraînement et extrêmement mécanique, entre guillemets. Alors que quand tu leur parles en off, ils sont passés, comme nous tous d'ailleurs, par énormément de phases de doute, de remise en cause, mais on n'en parle jamais. Et on leur a dit, mais en fait, rejoignez-nous, en fait, parce que c'est ultra important que vous portiez ce message de dire, bah oui, j'ai atteint les plus belles réussites, j'ai eu un impact énorme, une performance énorme. Par contre, comme n'importe quelle personne, je suis passé aussi par des moments extrêmement compliqués.
Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ?
On est 60 personnes.
C'est quoi vos ambitions sur les 3 prochaines années ?
La première ambition, c'est on n'est même pas à 1% de ce qu'on a envie de faire en termes de, à la fois de potentiel du produit qu'on a aujourd'hui et en même temps en termes de couverture des entreprises qu'on accompagne. Je le disais, on accompagne une grosse centaine d'entreprises à l'heure où je parle et en fait, l'ensemble des entreprises en Europe et dans le monde ont besoin d'un service comme le nôtre pour avoir ce que moi je parle d'une croissance durable en fait. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est un objectif en termes d'humain. Un des trucs qui me drive au quotidien, qui me donne de l'énergie, c'est de voir dans mes équipes, ça peut paraître un peu bateau de le dire comme ça, mais des sourires ou quelqu'un qui me dit « bah ouais, en fait, j'ai grandi sur telle thématique » ou « je me suis épanoui sur tel sujet ». Et ça, c'est un truc qui me pose beaucoup de questions aujourd'hui. On voit pas mal dans la presse des entreprises, on parle de scale-up, de licorne, de ce que tu veux, qui grandissent extrêmement vite, qui recrutent des collaborateurs à l'appel, etc. Et ça m'a toujours posé question sur quel est le bon rythme de croissance à avoir et comment tu t'assures d'avoir une notion d'efficience, et j'irai peut-être pas jusqu'à sobriété, mais en tout cas une notion d'efficience dans les gens que tu recrutes pour te dire, bah oui, en fait, au niveau individuel et bien sûr collectif, j'ai créé des histoires assez fantastiques. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième objectif, c'est de se dire comment avec la croissance, on conserve une culture qui est extrêmement forte et un niveau d'épanouissement de nos collaborateurs qui sont le plus élevé possible.
C'est un bon sujet du moment, la sobriété. C'est un bon sujet du moment, la définition de la licorne. Parce que finalement, une licorne, ça devrait pas être une entreprise qui a un impact ou qui change la vie ou de 1 milliard de personnes. Ou il y a plein de façons de voir le.
C'est un très très bon point et ça fait écho à 2 bouquins, je pense qu'il faut lire. Le premier, c'est Vers une sobriété heureuse de Pierre Rabhi, qui parle pas de licorne, hein, mais qui peut indirectement y être adapté. Et le deuxième, qui fait complètement rapport à ce que tu dis, c'est le bug humain. Je sais pas si t'as lu ce bouquin, mais
non,
en gros,
j'ai lu le premier,
que,
mais
qui dit une idée très simple, qui dit que à partir du moment où t'auras réussi à changer le critère social de réussite, qui aujourd'hui est directement lié à combien d'argent t'as sur ton compte en banque, directement ou indirectement, mais par exemple, je sais pas moi, combien de tonnes de CO2 t'arrives à économiser par an, ou combien de sourires dans la rue t'as réussi à générer. C'est très important parce que c'est exactement comme ça que va fonctionner derrière la réussite. La thèse du bouquin est très intéressante.
C'est qui les gens qui t'inspirent aujourd'hui ?
Une des personnes qui est très proche de moi et qui m'inspire beaucoup, c'est ma grand-mère. Je la cite de temps en temps parce que, en fait, je trouve qu'elle commence à avoir un âge assez certain.
Elle a quel âge ?
Elle a 92 ans.
Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Marie-Yvonne. C'est cool de faire une dédicace dans un podcast. Moi, j'avais toujours eu l'image des vieux un peu chiants qui râlent, etc. Et je trouve qu'elle a justement un optimisme. Moi, je l'ai mis dans les valeurs de Moka, l'optimisme insatiable. C'est quelque chose qui pour moi, permet de déplacer des montagnes. Et ça, je trouve ça assez cool. Donc, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. La deuxième personne, justement, qui m'inspire pas mal dans les lectures, on en a parlé, c'est Pierre Rabhi. Je trouve qu'il y a des idées qui sont assez intéressantes à questionner, à aborder, parce qu'elles s'appliquent à plein de domaines de notre vie. Et sans être nécessairement radical et se dire, je vais changer drastiquement ma manière d'agir, de consommer, etc. Je trouve que ça fait réfléchir, appliquer au quotidien des petites transformations. Il y a quelque chose que j'ai fait aussi, c'est au moment où j'ai créé Moka, d'une manière ou d'une autre, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé des entrepreneurs dont toi qui m'inspiraient et qui ont accepté de me donner du temps. Et pour moi, c'est quelque chose qui a une valeur énorme parce que au début, quand tu crées ta première boîte, t'as beaucoup de questions sur comment tu peux aborder tel ou tel sujet. Et même au-delà des aspects business, t'as des questions autour de l'énergie et de te dire « Ok, comment t'es au top au quotidien ?» Et juste le fait de dire à quelqu'un qui te dit « Ok, non mais t'inquiète, on est passé 15 fois par cette même galère », ça te baisse ton niveau de tension.
Comment est-ce que tu arrives à maintenir un équilibre pro et perso en n'étant pas trop de mocaquaire?
Quelque chose qui parfois fait quelques rides quand j'en parle, mais j'adore la routine. Je suis un énorme fan de la routine, c'est-à-dire que je me lève tous les matins à la même heure, je fais exactement la même chose tous les matins. Au boulot, mon agenda est organisé toujours de la même façon.
C'est quoi ta routine matinale?
Bah, je me réveille tous les matins à 7h30, je m'occupe de ma fille et de ma femme jusqu'à 8h30. À 8h30, je prends le vélo. J'ai un casque qui me permet de passer des appels téléphoniques en toute légalité en vélo. Et donc, j'ai toujours un appel téléphonique à 8h30 le matin sur mon vélo, sur mon temps de trajet. J'arrive à 9h à peu près. J'ai un quart d'heure pour regarder mes mails et y répondre. À 9h15, j'ai un stand-up avec une partie de l'équipe que je gère aujourd'hui pour gérer les priorités de la journée. De 9h30 à la fin de matinée, j'ai ce que moi j'appelle un temps de production. C'est-à-dire c'est un temps pour moi-même pour réfléchir au sujet stratégique de la boîte. Ensuite, le 2 midis par semaine, je fais du sport. 2 autres midis par semaine, j'ai un déjeuner avec quelqu'un. Et je vais pas passer tous les détails parce qu'après on s'en fout, mais tu vois la façon dont c'est réglé comme du papier à musique. Et il y a beaucoup de gens qui voient ça comme c'est extrêmement contraignant, alors que moi, pour moi, ça me donne beaucoup de liberté, parce que c'est pareil, ça fait un peu cliché de dire ça, mais je m'habille tous les jours de la même manière. C'est que des trucs comme ça qui me permettent d'avoir beaucoup de liberté dans la façon. Par exemple, je sais que une fois par semaine, bah on peut avoir, je sais pas moi, une soirée en famille. Bah ça peut changer à chaque fois, mais c'est un temps qui est réservé.
Quand t'es dans un tourbillon, que t'es submergé par le travail, par les émotions, qu'est-ce qui te permet de passer le cap?
Ça prend du temps de trouver ce qui justement te permet de passer le cap. Et c'est différent pour chacun, donc il n'y a pas de règle valable pour tous. Mais moi, ce qui me permet de passer le cap, c'est de faire beaucoup de sport. C'est quelque chose que j'annule jamais dans mon agenda et c'est marqué dedans en fait, et personne me cale de rendez-vous sur ce créneau-là, et c'est presque plus important qu'un créneau de board ou qu'un créneau de je ne sais quoi. Ça, c'est une de mes manières de maintenir à la fois un rythme extrêmement intense et élevé, personnel comme professionnel, et en même temps d'avoir la forme. Deuxième truc que je fais beaucoup, c'est je m'étire tous les soirs et je pratique des exercices de respiration, prends à peu près 20 minutes, quelque chose comme ça, et c'est devenu un rituel. Il y a beaucoup d'articles qui disent que on peut prendre une habitude en 21 jours, et moi j'y crois vachement. Enfin, on a des exercices de méditation dans l'app de Mocha, et au début les gens nous disent ouais mais moi j'arrive pas à méditer tous les jours, etc. Et fine, en fait t'as pas besoin, mais si t'y arrives, tu vois, fais-le pendant 21 jours, après tu verras, ça deviendra une routine.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
Une des choses qui a une des transformations majeures dans ma vie récemment, c'était d'être passé d'un couple à une vie familiale. J'ai eu une petite fille il y a un an et comme je le disais, j'attends un deuxième enfant. Tu peux me souhaiter d'avoir beaucoup de bonheur d'abord dans cette vie-là, parce que c'est aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qui m'épanouit presque encore plus que le boulot, et pourtant on sait comme le boulot m'éclate. Je trouve ça cool, tu vois, de voir premier pas de ta fille, le truc. C'est pareil, c'est bateau, c'est des joies très simples, mais en tout cas c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Deuxième truc que tu peux me souhaiter, c'est de faire grandir Mocha au bon rythme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a la chance en fait, je pense, d'apporter énormément aux entreprises qu'on accompagne, et du coup d'avoir un rythme de croissance économique qui est, je le considère comme bon. Du coup, ce que tu peux me souhaiter, c'est de réussir à gérer entre guillemets ce rythme pour toujours centrer l'aspect humain comme le cœur du réacteur de ta performance, quoi.
Eh ben, merci beaucoup Pierre-Étienne. Je vais donc te souhaiter de profiter de cette vie familiale que je trouve moi aussi très riche. Je pense que c'est aussi ça qui permet d'avoir cet équilibre vie perso et vie pro, et puis de faire grandir Mocha avec une croissance humaine. C'est ça que je retiens finalement. La croissance, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux quand elle est humaine. Donc bonne chance à toutes les équipes de Mocha et à très vite.
Canon, merci Thibaut, bye bye.
Salut.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.